Le balado qui suit est une production de Communication Niviti, Capable Média.
Ici Kim Auclair pour Capable Entreprendre sans limite. Dans quelques instants, vous allez écouter le tout dernier épisode de la saison 2. Je veux profiter du moment pour remercier Vincent Flamand, mon copain, pour son soutien durant toute l'aventure. Jeannie Duquette et Normand Flageol pour leur excellent conseil. Cette aventure-là a passé très vite et toute l'énergie qui a été mise, les retombées m'ont donné le goût de faire une saison 3. Donc, merci à vous d'être à l'écoute, de partager en grand nombre et on se retrouve. À bientôt! Aujourd'hui, cet épisode est présenté par la Banque de développement du Canada, mieux connue sous le nom de la BDC. On rencontre deux invités passionnés par le sujet de la neurodiversité au travail. Mélissa, tu es copropriétaire de l'entreprise Nuance. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la neurodiversité en milieu de travail?
Avec plaisir, on va sauter vif dans le sujet. Donc, Nuance, ça fait plus de 4 ans maintenant. En fait, moi, ça fait plus de 4 ans que je fais de la neuro-inclusion à temps plein. Ça fait 14 ans que je suis en développement organisationnel, surtout en transformation organisationnelle. Nuance existe depuis maintenant 2 ans que j'ai cofondé avec ma partenaire Fran. Puis en fait, pourquoi la neuro-inclusion? Bien, après un diagnostic tardif, après un épuisement professionnel, j'essayais de mieux comprendre, j'épluchais tout ce que je pouvais trouver, mais j'ai remarqué qu'au Québec, il y avait presque rien sur le sujet. Beaucoup de littérature, de documentation disponible en anglais, très peu en français. Puis à ce moment-là, bon, COVID est arrivé, tout le brouhaha de tout ce que ça a apporté, j'ai décidé de me lancer à ce moment-là, de faire ce grand saut-là pour créer des milieux de travail qui soient plus neuro-inclusifs. Donc, que tous les milieux de travail puissent accueillir toutes les gens, que les personnes soient neurodivergentes ou que les personnes vivent des moments dans leur vie où est-ce qu'ils ont plus de fatigue, plus d'épuisement, puis qu'ils puissent s'épanouir dans leur milieu de travail. Donc, c'est ce qu'on fait vraiment, accompagner les organisations dans cet angle-là de développement organisationnel. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre les meilleures pratiques pour l'accessibilité de tous et toutes?
Merci. Et Christelle, toi, tu travailles à la BDC et tu as quand même un rôle important pour qu'est-ce qui est la neurodiversité. Est-ce que tu peux m'expliquer justement ton rôle et comment la BDC appuie la neurodiversité en milieu de travail?
Oui, tout à fait. Donc, la BDC, c'est une institution financière qui est vraiment dédiée 100% aux petites et moyennes entreprises. C'est pas tout le monde qui le savent. On est là pour soutenir les entrepreneurs pour aller plus loin via le financement, le capital de risque, mais aussi les services conseils. Et mon rôle, à titre de vice-présidente adjointe de l'Endurable, c'est de vraiment aider des entrepreneurs à bâtir des entreprises plus durables, que ce soit au niveau de l'environnement ou la diversité, l'inclusion ou des entreprises plus humaines. C'est vraiment mon rôle. Autant au niveau des équipes, je fais pas ça tout seul. On a plusieurs équipes incroyables à BDC qui travaillent aux ressources humaines, communication, marketing, puis aussi les lignes d'affaires. Donc, vraiment, que ce soit au niveau du capital de risque, on a des fonds dédiés à des entrepreneurs issus de communautés moins bien desservies. On a du financement aussi. On a des équipes formées pour eux. On a un programme pour la santé mentale aussi. On a énormément de ressources gratuites, des outils en ligne à bdc.ca pour aider à faire un plan d'affaires, un boîte d'outils pour la diversité, équité, inclusion, même un calculateur pour la décarbonation. On a vraiment beaucoup d'outils gratuits. Donc, on est vraiment là pour aider les entrepreneurs à bâtir des entreprises plus équitables et plus durables, peu importe où ils sont sur leur parcours. Donc, ça, c'est vraiment mon rôle. Puis je suis vraiment contente d'être ici.
Ah, c'est fun. Puis, comment est-ce que vous définirez la neurodiversité dans vos mots à vous?
Bien, dans mes mots, je vais quand même y aller avec ce qu'on définit dans la littérature, parce que c'est ce qu'on fait comme travail. Donc, la neurodiversité, c'est 3 choses. On va définir de cette façon. Donc, première, c'est un fait. C'est un fait qu'il y a une diversité cognitive au sein de l'humanité. Tout le monde est sur le continuum de la neurodiversité, mais il va avoir des profils neurodivergents. Il va avoir des profils qu'on va dire neurotypiques. Donc, un profil neurodivergent, par exemple, le TDAH, l'autisme, d'un profil qui diverge d'une norme qui a été socialement construite. Donc, à travers ça, on va avoir le paradigme de la neurodiversité qui, elle, vient définir le fait que On veut arrêter de hiérarchiser les cerveaux selon une norme, puis de dire qu'on devrait tous atteindre cette norme-là, puis on devrait dire que certains sont moins que. Donc, c'est de redéfinir ce paradigme-là en se disant que c'est un fait et que tout le monde a sa place et que tout le monde apporte à cet écosystème-là. Fait que si on pense à neurodiversité, on entend peut-être biodiversité dans le mot. Puis c'est un choix conscient qui a été fait de choisir ce mot-là, neurodiversité, en écho à la biodiversité, parce que dans la nature, on a besoin de toutes les plantes, de tous les animaux pour que la planète aille bien. Bien, l'humanité, on a besoin de tous les types de cerveaux, de toutes les forces de tout le monde pour faire face aux différents défis. Puis en fait, mais c'est un mouvement social, le mouvement social de la neurodiversité, où ce qu'on veut, que toutes les personnes aient le droit de s'épanouir, de vivre en sécurité dans toutes les sphères de leur vie.
Christal, toi, dans ce...
C'est vraiment des musiques à mes oreilles. Je suis biologiste, puis j'ai fait ma maîtrise sur la biodiversité, puis c'est tellement ça, c'est tellement vrai. C'est la richesse, la biodiversité. Pour moi, la neurodiversité... C'est très personnel. Je suis neurodivergente. Je suis aussi je suis TDAH, un diagnostic tardif aussi. J'ai des enfants aussi qui sont neurodivergentes. C'est vraiment de comprendre que nos cerveaux ne sont pas codés de toute la même façon. Mon enfant, quand il a été diagnostiqué, je l'avais acheté un livre, mon cerveau porte des lunettes, puis après, il y en a un autre, mon cerveau porte encore des lunettes. C'est vraiment un excellent livre qui explique que c'est pas un problème à corriger, c'est un chemin à naviguer. On est différents. Et il y a une richesse à cette différence-là, puis il faut vraiment aller comprendre cette neurodiversité. Donc, j'écoute vraiment ce que Mélissa dit.
Mais c'est le fun de voir vous, autant en tant qu'entrepreneur, puis en tant qu'organisation, puis de voir aussi que tu es touché par ça. Ça ajoute une plus-value. Tantôt, tu as mentionné, Mélissa, tu as démarré ton entreprise, la COVID et tout ça, mais aussi dans une année où est-ce que le sujet était pas nécessairement populaire quand tu as commencé. T'as-tu rencontré des défis, justement, à... parce que je sais que tu avais quand même des études, beaucoup de crédibilité dans ton domaine avant même d'avoir démarré, mais à convaincre les gens, parce que j'ai l'impression que tu es vraiment avant-gardiste, là, tu étais dans les premières. Là.
Dans les premières au Québec, oui. Ça a son avantage, ça a ses inconvénients. Tu sais, je dirais au niveau des avantages, c'est sûr que quand je suis arrivée avec mon projet, tu sais, j'ai gagné deuxième lauréate nationale à Ose Entreprendre. Tu sais, c'est quelque chose qui intéressait les gens. Donc, il y avait des gens qui étaient là pour écouter, pour essayer de comprendre. Mais de démarcher des clients, ça a été quand même de longue haleine. Là, tu sais. Donc, le développement des affaires, trouver les early adopters en bon français, les personnes qui vont vouloir faire ce premier saut-là quand on en parlait très peu. Fait que c'est sûr que le développement des affaires a été plus long de façon organique. Après ça, quand j'en parlais aux gens, il y avait beaucoup de méconnaissances, beaucoup de commentaires plus insidieux du genre, tu sais, tu réseautes, puis là, il y a quelqu'un qui dit, moi, j'aimerais ça faire une bonne action puis engager une personne comme ça. Là. J'étais comme, non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de dire qu'on a des environnements où tout le monde peut s'épanouir, puis il y a probablement déjà des personnes neurodivergentes dans ton environnement de travail, puis tu le sais peut-être même pas. Donc, de venir sensibiliser, puis après ça, bien, au niveau de l'entrepreneuriat en tant que tel, ben c'est sûr que quand tu travailles dans une organisation, tu peux avoir accès à des mesures adaptatives. En fait, tu y as droit. L'employeur a plus de moyens pour les payer, mais quand tu es à ton compte, il faut que tu les payes toi-même. Fait que faut que tu fasses assez d'argent pour payer, tu sais, le logiciel qui va t'aider à faire tes finances, parce que Excel, tu sais, pour moi, ma boîte courriel, ça devient une soupe alphabet. Faire mes finances, c'est tant que j'ai assez d'argent pour me payer une firme comptable. Après ça, tu sais, qu'on puisse payer une personne adjointe pour venir nous aider pour, tu sais, au niveau de toute la gymnastique mentale, de tout jongler puis de pas trop échapper de balle. Fait que ça vient avec le fait qu'on fait face à des situations d'handicap invisibles au quotidien, mais qu'on n'a pas nécessairement encore les moyens de se le payer, puis que les organismes et les ressources qui supportent les entrepreneurs ne sont pas encore assez sensibilisés sur le sujet.
C'est quand même impressionnant. En fait, on va attaquer directement un sujet qui, pour moi, est impressionnant dans le sens... Est-ce qu'il faut... impressionnant, je ne sais pas si c'est le bon mot de le dire, mais c'est intriguant. Est-ce qu'il faut en parler ou pas de l'handicap, parce que tu mentionnais que beaucoup de gens vont pas le dire ou n'en parlent juste pas, puis ça fait que les personnes sont déjà dans l'entreprise, mais ne le mentionnent pas. Donc, je vais m'adresser à toi, Christal, puis tu pourras compléter, évidemment. Mélissa, est-ce qu'on doit en parler? C'est un handicap invisible. Est-ce qu'on en parle ou pas? Puis c'est quoi les avantages d'en parler aussi?
Je pense que c'est le fait que c'est invisible qu'il faut absolument en parler. Puis c'est la raison que je suis ici aujourd'hui, puis j'en parle beaucoup. C'est sûr que chaque personne a son rythme quand ils sont prêts à en parler. J'ai été diagnostiquée très tard aussi après mon fils. Maintenant, je suis comme... C'est évident, mais... À l'époque où j'ai grandi, on en parlait moins, on n'en parlait pas. Puis c'est en apprenant via vie mon fils que j'ai réalisé que, tu sais, le TDAH est vraiment mal nommé. C'est pas une déficience d'attention du tout. C'est une déficience d'autorégulation. Donc, on a des stéréotypes. Puis si on n'en parle pas, ça reste un tabou. Moi, j'ai passé toute ma... J'étais bonne à l'école. J'ai réussi. Mais j'ai travaillé vraiment fort. Puis j'ai passé la majorité de ma vie d'adulte sans comprendre ma neurodivergence et sans comprendre ma différence. Et je pensais, même si j'ai 2 maîtrises puis un bac et j'ai réussi, que j'étais moins intelligente que la moyenne, que je devais travailler 2 fois plus fort pour avoir le même résultat. Parce que j'avais pas développé les outils, je comprenais pas c'était quoi le TDAH, je savais même pas que j'étais TDAH. Donc, il faut en parler parce qu'à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, soit il connecte, il vit la même chose, ça enlève les tabous, ou c'est quelqu'un qui est peut-être neurotypique, mais ça change le regard, puis ça sensibilise, puis ça éduque. Parce que si t'en parles pas, ça peut paraître comme quelqu'un qui écoute pas. Mais j'écoute activement, mais j'interromps beaucoup. Mais le monde, ils vont juste penser que je suis pas polie, que j'écoute pas. Mais tu sais, puis il y a plein d'autres choses, mais il faut en parler. Il faut vraiment briser les tabous.
Chaque personne est vraiment unique dans cette situation-là, même s'ils ont la même...
Très unique. Très différent.
Toi, Mélissa, je pense que tu prônes pour le message que, oui, on en parle, mais on n'est pas obligé d'en parler aussi.
C'est tellement personnel. Puis quand on regarde les statistiques à travers différentes études, là, le taux de dévoilement est très faible. Puis selon les différents types de métiers, il va être beaucoup plus faible dans certains secteurs. Là. Tu sais, si on parle au niveau du droit, au niveau de l'ingénierie, là, les taux de dévoilement sont très, 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 très bas. Si je regarde avec certains de nos clients qui ont fait des sondages d'auto-identification, le taux d'auto-identification pour les personnes en situation de handicap frôle le 0 à 2 % dans l'organisation. Fait que même dans un sondage anonyme, les gens soit sont pas à l'aise de dire, ou soit il y a plusieurs personnes qui savent pas qu'un TDAH est considéré comme une situation d'handicap au sens de la loi, par exemple, ou ont pas de diagnostic parce qu'il y a plusieurs barrières d'accès au diagnostic. T'sais, si, par exemple, t'sais, comme dans ton cas avec 2 enfants, puis que 3 enfants, puis là, on paye le diagnostic 1, 2, 3, peut-être que j'ai plus l'argent pour moi comme parent pour aller chercher, puis là, ben je me sens pas légitime si je l'ai pas pour demander à mon employeur. Après ça, il y a le fait aussi que si je le dis, bien, je ne peux plus l'enlever, ça. Fait que si ça change le regard de l'autre personne sur moi, je ne pourrais pas revenir en arrière. Puis ça, ça fait peur aux gens. Fait que avoir la sécurité psychologique dans l'environnement pour être à l'aise d'en parler et sentir que je ne vivrai pas les répercussions de ces préjugés et de ces stéréotypes-là, ça vaut pour beaucoup. Mais ça prend beaucoup de sécurité pour le faire. Fait que d'être capable d'être dans un environnement où ce qu'on peut minimalement avoir assez de sécurité pour nommer ses besoins et qu'on comprenne que les besoins sont valides et légitimes, ça va faire déjà une bonne partie du chemin. T'sais, si, par exemple, j'ai de la difficulté à me concentrer parce qu'il y a trop de bruit, j'ai-tu besoin d'un diagnostic de TDAH ou est-ce que c'est juste un fait que j'arrive pas à me concentrer? Fait que ça permet aux gens de cheminer à leur rythme dans le dévoilement de tout ça.
Puis je pense qu'il y a une façon, quand je dis qu'il faut en parler, dans le sens qu'il faut, dans une entreprise, en parler. Oui. Ça veut pas dire que chaque employé, comme je dis, c'est très personnel, mais comme entreprise, comme organisation, avec nos groupes de ressources employés, on crée un environnement où on sensibilise, on éduque. Ça veut dire que les personnes, peut-être ils vont pas en parler, mais ils écoutent, puis ils savent qu'ils sont pas tout seuls, puis ils apprennent aussi. Donc, je pense que c'est plus de dire, on en parle, on sensibilise, on éduque, mais chaque personne, c'est personnel, puis ils vont en parler quand ils se sentent à l'aise.
Exact.
Dans un environnement sécuritaire.
Exact. Puis après ça, tu sais, dans toute de façon holistique dans l'organisation, tu sais, si on en parle, que les bottines suivent les babines.
C'est ça.
Que les gestionnaires, tu sais, qu'on s'assure que chaque gestionnaire, s'il reçoit une personne qui se dévoile, soit dans un diagnostic, soit dans un besoin, qu'il l'accueille de la bonne façon.
Puis donc, en fond, si on traduit ça dans des conseils concrets de comment est-ce qu'on peut favoriser, créer un environnement de travail où est-ce que chaque personne soit à l'aise d'en parler, ou même si il n'en parle pas, que ce soit bien accueilli et non étiqueté par un terme qu'ils ne se reconnaissent pas. Ça serait quoi exactement les conseils? On a donné quelques pistes, mais si on revient à des actions concrètes qui pourraient être considérées par les organisations.
Tu veux que je commence?
Oui.
Moi, je vais laisser la professionnelle. Est-ce qu'on aurait pu commencer avec ce que vous faites aussi? Il y a plusieurs chemins qu'on peut prendre. T'sais, généralement, le premier chemin qu'on va suggérer, c'est de former les gestionnaires. Les gestionnaires, on va les former à mieux comprendre, ça veut dire quoi? À bien accueillir les personnes, à bien les accompagner, pas faire preuve de capacitisme dans leur façon dont ils voudraient interagir avec les personnes, parce que souvent, c'est pas mal intentionné, mais ça arrive comme ça. Puis de regarder c'est quoi les différentes mesures adaptatives qu'on peut penser, puis comment est-ce qu'on peut avoir ce dialogue-là avec la personne, puis comment est-ce qu'on peut identifier les forces de la personne. Après ça, on peut commencer à penser peut-être à faire de la sensibilisation au sein de l'organisation, revoir les politiques. Donc, il y a tout ça qu'on peut faire pour venir vraiment bien enrober, mais la priorité, c'est que les personnes, si elles se dévoilent, il faut qu'elles puissent être accueillis dans un lieu sécuritaire, que ce soit le gestionnaire ou sinon que ce soit avec les ressources humaines, bref, mais on doit créer ces chemins-là très clairs pour aider et accompagner les personnes.
Je serais curieuse de savoir aussi comment la BDC Cristal implante ces astuces-là. Qu'est-ce que vous avez fait exactement?
Absolument. Je pense que le mot-clé, c'est ce parcours, le parcours employé, c'est super important. Puis, on parle de l'inclusion. Tu avais dit quelque chose au début que je trouvais super intéressant. L'inclusion, on parle de neuro-inclusion, mais un milieu de travail inclusif, c'est pour tout le monde. Mm-hmm. Et tout le monde va être bénéficié. Donc, on veut favoriser l'inclusion pour toutes les personnes, peu importe leur différence, même peu importe. Donc, c'est vraiment tout au long du parcours de l'employé, au niveau de le recrutement, au niveau du développement, au niveau des formations, on offre des formations. Chaque employé, quand il commence, il y a une formation sur l'accessibilité, sur la diversité. On offre évidemment tout ce qui est dans le parcours de professionnel, de développement aussi. Puis, je pense qu'une chose que moi, j'ai vraiment aimé, parce que j'ai travaillé dans quand même beaucoup de grandes entreprises, puis c'est la place où je me suis sentie le plus moi-même. Donc, tu sais, ma définition de neuro-inclusion, c'est un milieu de travail où tu peux être toi-même. Et tu te sens que tu peux parler de tes limites, de tes défis, et tu vas être accueilli. Et tu vas avoir un milieu de travail qui va s'adapter, qui va être flexible. Mm-hmm. Donc, tu sais, oui, on a des milieux de travail flexibles, des horaires de travail flexibles, des milieux de travail qui sont plus propices, comme tu dis. Tu sais, moi, j'ai besoin de travailler dans un endroit qui est peut-être silencieux, où je parle très fort, j'ai besoin d'un bureau fermé. Donc, on s'adapte, tu sais, aussi avec les politiques. Mais aussi, je pense qu'à la fin, que ce soit neuro-inclusion ou inclusion tout court, ça va passer par la culture, ça ne change pas au jour le lendemain. Mais les groupes de ressources employés sont vraiment importants parce que c'est grassroots, mm-hmm. ça part des employés, puis c'est représenté par les employés qui sont neurodivergents, qui ont un handicap. Donc, à BDC, on en a 5 qui représentent différents groupes et sont très actifs et créent vraiment un environnement. C'est des employés qui sont bénévoles, c'est une place pour soutenir les autres, pour échanger. Donc, moi, j'ai trouvé ça. Je suis membre de le groupe Ressources employés pour des employés handicapés. Puis je pense que c'est vraiment une super bonne place pour commencer.
Ça ressemblerait à quoi des gestes qui, au quotidien, qu'un employeur doit faire dès l'accueil ou dès le recrutement d'une personne neurodivergente, mais en fait, juste pour qu'elle se sente à l'aise dès l'entrevue?
Oui. Quand on repense à l'accessibilité universelle, il y a beaucoup de choses qui viennent s'appliquer au niveau de comment est-ce qu'on design nos processus. Si on design notre processus de recrutement, tu sais, par exemple, le fait de se dire, OK, bien, je vais arriver avec quelque chose de très polarisant. Là. Je pense que ça a été ma publication LinkedIn qui a fait le plus réagir. Là. Mais mettons, donner les questions d'entrevue à l'avance. Juste ça, pour une personne neurodivergente, pour une personne qui est anxieuse, pour une personne qui embarque sur le marché du travail, qui ne connaît pas encore ça, ça aide la personne à se préparer comme personne qui fait l'entrevue. En fait, comme intervieweur ou intervieweur, je vais pouvoir avoir le meilleur de la personne qui va avoir préparé sa réponse en fonction du contexte, en fonction du poste, pas avec la première chose qui est venue en tête pendant qu'elle était stressée. De réfléchir ces processus-là, de donner toutes les étapes de façon claire et concrète, de savoir à quel moment je me retrouve où. Fait qu'il y a des façons de penser ces processus-là pour enlever les barrières. C'est ce qu'on veut ultimement. Mais après ça, dans la vie au quotidien de l'organisation, quand on pense juste aux réunions, un ordre du jour qui est clair, envoyé à l'avance, le fait de pouvoir participer, que ce soit à l'écrit, verbal, c'est pas parce que quelqu'un participe plus dans le chat ou va préférer réfléchir puis mettre ses idées à l'écrit par après que la personne elle a pas de leadership. Hein. Mais ça, c'est souvent un préjugé qui reste beaucoup. Mais à travers tout ce que je te dis, ce qui arrive, c'est qu'il faut réaliser que c'est des meilleures pratiques qui fait juste donner les meilleurs résultats. Si mon processus de recrutement est plus accessible, je vais avoir un recrutement qui est plus juste et valide. Puis si mes réunions sont plus inclusives, je vais avoir plus de jus de cerveau de tout le monde qui était là autour de la table de différentes façons pour trouver des solutions aux problèmes qu'on a eu pour faire une réunion.
Mais je trouve que tu mentionnes quelque chose d'intéressant qui se résume à réduire les obstacles que la personne va rencontrer, peu importe n'importe quel handicap, l'entreprise ou n'importe quel, dans le monde, dans quel, n'importe quel univers, ben, de réduire les obstacles, que ce soit à l'entrée d'un bâtiment, une préparation de rencontre, on réduit les obstacles pour que la personne soit elle-même, pour revenir à ce que disait Christal, juste que la personne soit bien. Puis ça s'applique autant dans le monde des médias, où est-ce qu'on est interviewé en direct, on n'a pas les questions à l'avance, quelqu'un qui n'entend pas, quelqu'un qui n'a pas accès à l'information, ben va avoir un stress. Puis ce stress-là, ben on sera pas notre meilleur. Donc déjà, de réduire cette barrière-là, de préparer, d'aider. En fait, c'est ça, je pense, de préparer, d'aider à l'autre à se préparer, mais de se préparer soi-même à mieux accueillir les personnes. Est-ce que ça rajouterait quelque chose?
Je pense que c'est super important aussi de faire confiance aux employés de leurs besoins. Mm-hmm. Sans, et puis, ils n'ont pas besoin de nommer leur diagnostic. C'est faire confiance que les employés savent qu'est-ce qu'ils ont besoin pour être productifs ou de vraiment atteindre leur plein potentiel. Je pense que c'est super important. Puis moi, je donnais une petite anecdote parce que moi, je suis gestionnaire, j'ai une équipe. Donc, tu sais, au niveau, oui, il y a les employés, mais aussi les gestionnaires. Tu sais, je sais que j'ai ma façon de travailler, puis mon équipe ont chacun leur façon de travailler. Puis pour moi, la transparence est super importante parce que j'ai besoin que mon équipe sache c'est comment mon cerveau fonctionne. Donc moi, mon cerveau fonctionne à 200 km de l'heure. Des fois, ça part sur turbo. Je pars en mode solution, puis tu sais, mes collègues sont encore en train de genre lire la fin de la phrase. Donc, tu sais, on a développé avec une collègue un petit mot de safety word, un mot de sécurité, Anana. Quand je commence à aller trop vite, Anana, ça me ramène sur terre. Puis on fait ça en humour, mais aussi en respect mutuel. Je m'adapte à elle, elle s'adapte à moi. Puis on se respecte entre eux, entre nous-mêmes, puis on trouve des solutions qui marchent pour nous. Donc, des fois, c'est des petites choses comme ça, de trouver des manières de juste se respecter. Mm-hmm. Peu importe que tu sois neurodivergente ou neurotypique, c'est de se respecter nos façons de faire.
Comment est-ce qu'on peut valoriser le handicap invisible qu'est la neurodiversité dans ses forces? Comment est-ce que la personne qui est neurodivergente peut reconnaître aussi ses forces puis mieux les vendre pour créer... Autant elle peut se créer plus d'opportunités que l'entreprise qui l'embauche puisse lui permettre de se développer plus rapidement.
Il y a plein de façons, puis... C'est pas facile à faire. Hein. C'est rare qu'on arrête puis qu'on se dit, c'est quoi mes forces? Tu sais, je te demande, c'est quoi tes forces? C'est à brûle pour point. Comme ça émerge pas. Il y a des questions qu'on peut se poser. T'sais, quand est-ce que les gens viennent chercher mon aide?
Vrai.
Hein? Quand est-ce que je sens que je suis venue faire qu'est-ce que j'ai à faire puis j'ai encore plein d'énergie puis je me sens accomplie? Ça, c'est tous des indices. Puis il y a des tests psychométriques aussi qui sont intéressants d'aller chercher. Par exemple, il y a le test VIA, Values in Action. Le titre est disponible en français aussi. On peut traduire les tests, mais qui aide à sortir nos forces et valeurs signatures. Fait qu'il y a des outils comme ça qui existent qui peuvent nous aider à venir identifier sont nos forces. Puis après ça, bien, dans l'organisation, comme gestionnaire, de venir faire du design d'équipe où est-ce que chaque personne va être dans ses forces. Puis de s'en parler, des fois, j'ai développé une force par surcompensation parce que j'ai un handicap invisible. Fait que tout le monde me voit comme la personne qui est tellement organisée et organisante, mais c'est parce que sinon, tout s'écroule. Moi, je suis le canard, puis les pattes en tout l'eau fonctionnent, mais j'ai l'air de voguer, là. Fait que peut-être qu'on a besoin de se reparler puis dire, tu sais, dans un moment comme ça, non, je suis pas pleinement épanouie et pleine d'énergie quand j'ai fini d'organiser tout le monde. Je suis juste en train de, comme, survivre. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'équipe qu'elle... Cette personne-là est vraiment bonne à organiser, puis ça ne demande pas un effort de surcompensation, puis on peut réaménager le travail. Mais tout ça, ça demande de se comprendre, ça demande d'être capable de se marier.
Les comptes de dépenses, c'est comme la torture personnelle pour moi. absolument. Donc, mais pour, il y a d'autres choses qui sont vraiment des forces. Tu sais, souvent les personnes neurodivergentes, ils font des patterns, tu sais, ils voient des affaires différentes, on sort de la boîte. Mais c'est ça la force de la diversité en général, savoir des perspectives différentes.
Et Je vais amener une question en fait spontanée. Est-ce qu'on est obligé d'avoir le diagnostic ou des tests ou s'il y a des personnes qui se sentent différentes, par exemple, est-ce que c'est recommandé d'au moins avoir un test de diagnostic pour pouvoir mieux expliquer leurs différences? Ou comment est-ce qu'on peut diriger ces gens-là vers peut-être que tu pourrais aller faire un test pour que ça soit comme validé?
Ça reste un choix très personnel. Puis du fait qu'il y a beaucoup de barrières, il y a plusieurs personnes, dépendamment de leur vécu, leur culture, vont décider de ne pas vouloir aller chercher. Puis c'est très valable aussi. Après ça, oui, ça peut aider d'aiguiller qu'est-ce qui se passe, mais on va quand même se dire que, tu sais, si on revient à l'idée du TDAH, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, oh, tout le monde est rendu TDAH aujourd'hui. »
C'est vrai.
Okay? Ça se peut que tout le monde est un peu fatigué du cerveau à la quantité de notifications qu'on reçoit, d'informations qu'on consomme. Donc, il y a des symptômes de TDAH. Chez beaucoup de personnes, quand tout le monde n'a pas un TDAH, le besoin n'est pas moins valide dans un cas comme ça. Fait que c'est de dire que si j'ai un besoin, c'est valide. Si je vis beaucoup de détresse ou de souffrance ou t'sais, de l'épuisement, oui, c'est vraiment recommandé d'aller consulter parce qu'on ne veut pas perdurer dans cette situation-là. Mais encore là, tout ça, dans toutes les nuances du fait que c'est pas simple et il y a beaucoup de barrières d'accès au diagnostic encore aujourd'hui, notamment pour les femmes. Fait que si quelqu'un n'a pas un diagnostic, ça ne veut pas dire que elle sait pas ce dont elle a besoin puis qu'on peut pas s'en parler.
Ben, je dirais aussi, tu sais, on est tous les deux TDAH, donc on parle beaucoup de ça, mais il y a c'est la neurodiversité, il y a beaucoup de différents diagnostics qu'on peut avoir qui sont, tu sais, donc ça peut être, des fois, c'est une sensibilité, tu sais, ou ça peut être un spectre autiste, il y a des traits qui peuvent se ressembler. C'est sûr que d'avoir un professionnel, ça peut vraiment aider, mais comme tu dis, c'est pas tout le monde qui a ses moyens, mais je veux dire, au minimum, même si t'as pas un diagnostic, de lire, de sensibiliser, de s'éduquer, parce que moi, j'avais aucune idée c'était quoi un TDAH avant de vraiment me lancer dedans. J'avais vraiment un peu les stéréotypes de quelqu'un qui n'est pas capable de s'asseoir, tu sais, pas capable de se concentrer, échec à l'école, mais tu sais, c'est pas toujours comme ça, puis chaque personne est différente.
Mais est-ce qu'un employeur aurait le droit de conseiller, peut-être, ou c'est délicat?
C'est délicat. Tu sais, au sens de la loi, si l'employeur... mettons, si l'employé demande une mesure adaptative, accommodement raisonnable au sens de la loi, si on utilise les termes, l'employeur aurait le droit d'obliger un diagnostic pour octroyer jusqu'à contrainte excessive. C'est comme ça que la loi est faite au Québec, malheureusement. Ce qui fait que, ben, ça met encore les personnes en situation de précarité si l'employeur se prévaut de ce droit-là. Mais après ça, la personne, si on est capable d'avoir, au niveau de ses assurances collectives, on peut appeler les assurances collectives, essayer de voir qu'est-ce qui est couvert. Y a-t-il une façon de couvrir différemment? Des fois, une flexibilité au niveau des packages, si quelqu'un a besoin d'un diagnostic, au niveau des fois de certains services de santé avec les PAE, on peut regarder. Ils ne feront pas de diagnostic, mais ils vont pouvoir apporter de l'aide sur certains éléments. Fait que de regarder qu'est-ce qui est disponible dans l'organisation si on voit qu'une personne vit des difficultés. Mais on ne peut pas dire, ah, je pense que t'es autiste. On ne recommande jamais de faire ça. C'est pas une bonne idée. On sait pas d'où la personne vient avec aussi ses connaissances-là. Si la personne a juste vu Rain Man dans sa vie, ça va sortir de nulle part, puis elle risque de le prendre comme une insulte, même si ce n'en est pas une, évidemment. Donc, de revenir sur les faits. J'observe que ça, c'est difficile. Je vois que ça dure dans le temps. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu penses que ça, c'est difficile? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller de l'avant? Puis peut-être qu'éventuellement, la personne va vouloir cheminer vers un diagnostic. Ça serait la recommandation que je ferais.
Est-ce que Christa, t'aimerais rajouter quelque chose?
Non, je pense que c'est très juste. Je recommanderais jamais d'essayer d'autodiagnostiquer les personnes dans nos entourages.
C'est pas une chasse aux Pokémon.
Non, pas une bonne idée.
Mais Mélissa, Christa, on arrive déjà à la fin. De l'entrevue. J'aimerais savoir, moi j'ai appris beaucoup, je pense qu'on a réussi à démystifier certains préjugés. Qu'est-ce que les auditoires, l'auditoire devrait retenir de la neurodiversité en quelques mots?
Je peux commencer.
Oui.
Je pense que vraiment, je reviens souvent à cette notion de l'écoute. C'est tellement important d'écouter. On ne peut pas s'attendre à tout le monde, inclure quelque chose qu'il ne comprend pas. Donc, c'est sûr que l'éducation et la sensibilisation, c'est vraiment important. Parce que, tu sais, on va assumer que les personnes ils veulent bien faire, mais il faut les aider à comprendre aussi. Donc, je dirais aussi que, encore une fois, l'inclusion et la neuro-inclusion, c'est bon pour tout le monde.
C'est donc, qu'est-ce qu'on fait dans une entreprise? Ça reste pas dans ces quatre murs. Ça, chaque conversation qu'on a, qui est sensibilisée, chaque témoignage, chaque geste d'adaptation, ça rend un milieu de travail plus empathique, plus inclusif. Puis ces personnes-là vont être plus empathiques dans leur communauté, dans leur société. Donc, ça rend vraiment une société qui favorise l'inclusion en général. Donc, je pense que c'est vraiment mon message. On parle de la neuro-inclusion aujourd'hui, mais c'est l'inclusion tout court. Oui. Puis c'est super important de valoriser les différences de chacune et chacun.
Empathie et authenticité. Oui. Ça va ensemble. Vu qu'on parle quand même de l'entrepreneuriat, de l'organisation, tu sais, c'est un fait. La neurodiversité est là, on parle d'environ 20 % de la population. Il y a une surreprésentation dans certains domaines et surtout, il y a une surreprésentation en entrepreneuriat. Parce que oui, pour certains, ça peut être un mode de vie qui nous convienne mieux comme personne neurodivergente, mais pour d'autres personnes, les personnes vivent tellement de discrimination sur le marché de l'emploi qui n'ont pas d'autre choix que de se lancer à leur compte. Puis l'entrepreneuriat, c'est comme un jeu vidéo à difficile. Puis l'entrepreneuriat comme personne neurodivergente, c'est comme un jeu vidéo à extrême. Fait que si nos entreprises étaient capables de comprendre que on a tous et toutes notre place, qu'on a tous et toutes une façon de contribuer, si on est capable d'être des Moses de bons et bonnes entrepreneurs, entrepreneuses, on est capable d'être des bons et bonnes entrepreneuses dans les organisations aussi, puis que les gens puissent faire le choix d'être en entrepreneuriat ou puisse faire le choix d'être en entreprise puis que tout le monde puisse s'épanouir comme ça.
Mélissa, Christelle, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bien, merci pour l'invitation.
Un début d'un ami. J'ai sûr qu'on va se reparler. Là. C'est le début. J'ai plein d'autres questions. Et Kim aussi. Merci beaucoup.
C'est correct.
OK, bien moi, j'adore dessiner, prendre le temps de dessiner pour chaque personne. Donc, je vous ai fait une petite carte qui pour vous remercier pour votre participation. Vous pouvez la regarder. Alors, il y a Touriste Shawinigan qui voulait vous offrir aussi un cadeau de remerciement pour votre présence. Donc, merci Christelle.
Oh, hey, ça dit Christelle à Shawinigan, j'adore ma nouvelle femme préférée!
C'est toi, la belle Mélissa
Shawinigan. Et Mélissa.
Thank you.